instant. Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonjour, ce sont les infos du 11-12-13 et il est 19h passé de 3 minutes.
Alors, ce soir, on va parler de plein de choses et notamment des salariés où de plus en plus de salariés sont au SMIC.
Centrafrique, les troupes coloniales en action.
Ensuite, on reviendra sur la loi sur les opérations militaires extérieures.
Mutinerie à la prison d'Argentan.
Ensuite, on ira à Lyon où les anti-mariages pour tous repartent au combat.
Et des hackers chinois piègent des diplomates au G20.
Ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Il y aura une petite rubrique littéraire.
Et on terminera cet agenda, et on terminera ce qui a nu info, par l'agenda. Alors, on commence ce qui a nu info par une info très courte, mais qui a le mérite de, enfin, qu'on devrait vous adresser quand même. D'après une étude récente, au 1er janvier 2013, il y aurait en France environ 3,1 millions de salariés au SMIC, soit environ, ça c'est un petit rappel pour ce que ça vaut le SMIC, c'est 1100 euros net pour 35 heures, autrement dit, c'est pas non plus grand chose. Ça représente 13% des salariés et voilà, en 2011, il y avait 2,6 millions de personnes au SMIC. Ça fait quand même un demi-million de plus de SMICards.
Après, tu dis c'est pas forcément grand chose, c'est quand même quasiment 4 fois plus que ce que gagne chacune des personnes présentes dans le
SMIC. C'est-à-dire que le RSA, c'est sûr, mais bon.
Alors, on va aller faire un petit tour en Centrafrique. Alors, on va se rappeler que tous les présidents français, depuis au moins Jacques Chirac, débutent leur mandat en disant maintenant c'est terminé la France-Afrique. Et à chaque fois, maintenant c'est terminé, mais à chaque fois, il faut que le suivant le reprécise quand même. C'est-à-dire que ça n'avait pas été si net que ça. Donc il faut aussi dire que tous ces présidents, après avoir dit que maintenant c'était terminé, ont continué à être les meilleurs amis du monde avec un petit peu tous les dictateurs africains. Alors pas tout à fait tous, bien sûr, ceux qui sont plus amis de la France que des États-Unis, puisque l'Afrique est quand même un terrain d'affrontement entre globalement les Gaulois et les Anglo-Saxons. Donc ils ont continué à être amis avec les chefs d'État les plus pourris, qui ont été élus au cours des élections les plus truquées, et ils ont continué à envoyer de toute façon des troupes ici ou là pour protéger un régime, en renverser un autre, etc. Donc voilà, Hollande, là, on a déjà eu le Mali, aujourd'hui on a la Centrafrique, Sarkozy, on avait eu par exemple la Côte d'Ivoire. Où là, lui, par exemple, il contribue plutôt à renverser un régime. Enfin, voilà, la France-Afrique tourne. Alors, on va pas s'étendre, en tout cas, sur les deux militaires français qui sont morts hier en Centrafrique. Hein. Ils étaient payés pour. On va pas en faire un caca nerveux. On va plutôt se demander ce que la France fout en Centrafrique. Et en fait, on va le faire par épisode. Alors, pour ce soir, on va faire un truc qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire dans ces canuts info. C'est qu'on va quasiment lire... en n'ayant quasiment pas modifié l'intervention d'un député communiste à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est bien ça que je vais faire parce que, en réalité, son intervention n'est pas si mal que ça. Alors, il ne faut pas la prendre entièrement comme. Disons que j'ai quand même gardé les bouts qui me plaisaient. Il faut savoir que la différence entre des députés communistes et nous, c'est qu'ils croient quand même en la France, ils croient en la nécessité d'avoir une armée, des petits trucs comme ça. Ce qui fait que j'ai quand même un petit peu coupé dedans. mais il dit un certain nombre de choses intéressantes. Et puis, la semaine prochaine, on aura une interview d'un militant de l'association Survie, qui est l'association qui lutte contre la France-Afrique d'une manière générale, et qui nous expliquera un peu plus en profondeur les tenants, les aboutissants de la présence française en Centrafrique, disons depuis Bokassa, c'est-à-dire il y a quand même quelques dizaines d'années, et comment on en arrive à la situation d'aujourd'hui, et pourquoi est-ce que c'est la France, et uniquement la France, qui se retrouve à intervenir là-bas. Alors quand je dis uniquement la France, il faut bien savoir que du coup François Hollande ou Laurent Fabius arrêtent pas de dire que les autres pays européens vont venir avec nous, etc. Eux, ils essayent toujours de faire passer le truc comme c'est pas que la France qui intervient dans les pays africains. Ils avaient dit la même chose pour le Mali. Hein. Mais à la fin, il y a alors éventuellement un petit pays qui envoie un petit avion de combat pour aider ou un peu de matériel. À la fin, c'est quand même toujours la France qui intervient, et c'est la France qui intervient pour protéger les intérêts de la France. Bon, en tout cas, voilà ce que dit ce monsieur André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Et il dit, à peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain en République centrafricaine. Il s'agit là de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Donc on en est à une en moyenne quand même. Une par an en moyenne. Une intervention armée de la France en Afrique par an en moyenne depuis que les pays sont indépendants. Cette intervention en France-Afrique s'inscrit dans une longue série d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et aux conflits, autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, s'il n'est pas dénué de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, c'est-à-dire la 171e place sur 177, selon le classement de l'indicateur du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors des nombreuses interventions militaires dans la région. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une lourde responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. Notre histoire commune entre la France et la Centrafrique est marquée par de nombreuses affaires, comme par exemple le pitoyable sacre de l'empereur Bokassa Ier, ancien sous-officier de l'armée française, et sacre qui avait eu lieu en présence de toute la diplomatie française. Malgré ce soutien qu'avait apporté à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, quelques années plus tard, il a décidé, donc le même Giscard, de débarquer son ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable et qui menaçait nos intérêts, encore une fois, pour réinstaller au pouvoir le président David Dacko, pour ensuite favoriser la dictature du général Kolingba. Celui-ci sera remplacé par le dictateur Ange-Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé. Un jeu de chaises musicales toujours orchestré par l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France. En 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous l'influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est de ce nord musulman qu'est venue en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka, qui sont donc aujourd'hui plus ou moins les ennemis des militaires français en Centrafrique. Et donc la Séléka, le 24 mars dernier, a porté au pouvoir Michel Djotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizé avait vainement appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. Et c'est ainsi que l'actuel président centrafricain Michel Djotodia est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka, qui sont aujourd'hui devenus ses ennemis. Michel Djotodia qui en a appelé lui aussi à la France après avoir dissous la coalition rebelle, donc la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une énième intervention dans l'ancienne colonie. Alors la Centrafrique est riche de ses ressources naturelles, mines d'or, de diamants, de mercure, d'uranium, de fer, mais aussi culture de manioc, de bananes, de maïs, de café, de tabac, coton, canne à sucre, une forêt de 3,8 millions d'hectares aux essences précieuses. La République centrafricaine suscite l'intérêt du monde, des affaires et du monde politique. Pourtant, ce n'est pas de cet intérêt dont le peuple centrafricain a besoin. Le peuple centrafricain a besoin de profiter pleinement de ses richesses et de mettre fin à la situation de confiscation du pouvoir politique et économique aux mains de quelques-uns. Car les germes de la crise actuelle sont aussi d'essence économique et sociale. Le peuple centrafricain a besoin du soutien de la communauté internationale pour que cessent les massacres qui se multiplient, alors que les affrontements entre les milices Seleka et Antibalaka terrorisent la population civile. Le texte qui a été adopté au Conseil de sécurité de l'ONU sur proposition de la France autorise les soldats français en Centrafrique à, ouvrir les guillemets, prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la MISCA dans l'accomplissement de son mandat, fermer les guillemets, dans le cadre de l'opération Sangaris, la France va tripler son continent sur place. L'Afrique reste donc un terrain d'action militaire pour la France, ce qui fait d'ailleurs regretter Amnesty International et à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme qui ont pris acte de la résolution l'absence de mise en place plus rapide d'une véritable force de maintien de la paix des Nations Unies. Et donc voilà, ce député communiste conclut en disant « Notre pays a une dette morale considérable envers le peuple de France-Afrique, une dette qui nous oblige à reconnaître que nous n'étions pas les mieux à même pour intervenir dans la situation dramatique qui le frappe. »
Eh bien, je voulais jouxter d'un article en plus autour, c'est pas exactement autour de la Centrafrique, mais en fait, fin novembre à l'Assemblée nationale, il y a eu une loi qui ouvre plus de possibilités sur les opérations militaires extérieures, donc qui s'appelle la nouvelle loi de propagation militaire qui a été réétudiée donc en fin novembre. Et qui renforce l'impunité dont bénéficient les militaires français engagés dans des opérations extérieures qu'on appelle OPEX. Et donc, ça fait quand même le petit lien avec la Centrafrique où il y a une opération qui est en train de se dérouler. Donc, plusieurs des articles de cette loi entendent éviter une judiciarisation inutile des opérations militaires. Donc ça, c'est entre guillemets.
On a l'impression de comprendre ce que ça peut vouloir dire.
Donc, qui répondait à une demande pressante des officiers français depuis plusieurs années. Donc il s'agit d'abord de renforcer, entre guillemets, l'excuse pénale pour usage de la force qui avait été introduite en 2005. Donc cette dernière, l'excuse pénale, entendait s'adapter à la réalité des missions des soldats en OPEX, du coup en opération extérieure, lesquelles consistent plus fréquemment en actions de police, de gestion de foule ou de coercition, qu'en manœuvres militaires proprement dites. Donc là, j'explique l'excuse pénale introduite en 2005. Donc, en l'absence de déclaration de guerre officielle, les soldats n'étaient autorisés à ouvrir le feu qu'en état de légitime défense. Donc ça, c'est en théorie, hein. C'est sur le papier, bien sûr, parce qu'on sait que dans les faits, ça se passait autrement. Mais donc, depuis cette réforme du statut général des militaires, ils peuvent faire usage de leurs armes, y compris contre des civils, dès lors que cette action est jugée utile à l'accomplissement de leur mission. Donc, d'où Hollande qui expliquait toute la mission au Mali, par exemple, il y a quelques mois. Et qu'elle est conforme au droit international, c'est-à-dire couverte par une résolution de l'ONU les autorisant, par exemple, à agir entre guillemets, par tous les moyens, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire lors des massacres de civils en novembre 2004. Donc voilà, ça c'était le petit aparté sur 2005, mais du coup on revient à cette loi qui est étudiée pour rouvrir les droits sur les opérations militaires extérieures. Donc,
Pardon, une loi qui est étudiée ou qui est passée ?
Non, elle est étudiée. Mais ce qui est alarmant, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est pas évident de tout comprendre, mais ce qui est alarmant, c'est que ça ouvre plus de possibilités, en gros, aux militaires pour agir en toute impunité et moins de possibilités pour des victimes de pouvoir faire appel, en gros. Donc cette nouvelle loi précise dans l'article 19 que cette excuse pénale s'applique également à toute, je cite, « opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quel que soit son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. » Donc, là, avec cette citation, on voit qu'il s'agit de couvrir les militaires, déjà protégés par leur anonymat, parce que les militaires ils fonctionnent déjà dans l'anonymat, agissant dans le cadre des opérations secrètes du COS, non soumises à l'information du Parlement. Et donc là-dedans, on voit aussi que c'est toutes les formes d'attaques, donc y compris par exemple des pirates somaliens ou j'imagine de bateaux de réfugiés en haute mer, ça c'est possible. Le code de la défense est également modifié, enjoignant à la justice de n'examiner l'éventuelle responsabilité pénale des militaires pour des faits non intentionnels qu'au vu de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leur mission, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action du combat. Donc ça ouvre et ça met tout le contexte en valeur et du coup ça permet à des militaires à plein de moments de s'en sortir lors de procès, puisque tout ça, ça sera pris en compte lors des procédures. Et surtout, l'article 18 redonne au parquet le monopole de la mise en mouvement de l'action publique pour toute infraction commise par un militaire à l'étranger, entre guillemets, dans l'accomplissement de sa mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce monopole du parquet supprime de fait le droit de constitution de partie civile, si ça retourne au parquet. Ce qui veut dire que des plaintes seront toujours possibles, mais seul le parquet, dont on connaît la dépendance à l'égard des pouvoirs politiques, jugera de leur opportunité. Et donc, petit rappel, c'est que les procédures judiciaires qui sont actuellement à l'œuvre pour dénoncer plein de faits qui ont été commis, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, etc., sont l'occasion d'une médiatisation et de débats qui sont évidemment craints par les pouvoirs politiques. Et donc, c'est une manière de supprimer, en fait, qu'il y ait des procédures juridiques et donc qu'on parle moins des bavures des militaires, tout simplement.
Non seulement des bavures, mais des interventions d'une manière générale. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, pour le Rwanda, il y a eu énormément de plaintes de civils rwandais contre l'armée française et qui ont effectivement à chaque fois été l'occasion d'une petite médiatisation et de réinterrogation sur le rôle de la France dans le génocide rwandais. Là, du coup, il semble que ça sera moins possible. Where you call her, do it as you like. You want to do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Alors, hier, des détenus de la prison d'Argentan, c'est dans l'Orne, ont déclenché une mutinerie pour protester contre une fouille totale des cellules qui a eu lieu le matin même. Alors, une quinzaine de prisonniers se sont retranchés dans une aile et ont mis le feu à tout ce qu'ils trouvaient, ont défoncé la lumière et les caméras de vidéosurveillance. Ils ont également recouvert le sol d'huile et de verre pilé, pour rendre l'intervention des flics et des pompiers vachement plus compliquée que
malin,
prévu.
Malin.
Ouais, malin. Au total, il aura fallu 3 heures pour éteindre l'incendie, et avec les pompiers, et ça a nécessité également l'intervention des IRIS. Alors les IRIS, pour rappel, c'est un peu l'équivalent du GIGN spécialisé dans les interventions de prison. En gros, c'est une unité de police qui intervient dans les mutineries. Le syndicat FO pénitentiaire affirme que la mutinerie a causé d'importants dégâts matériels. Et la prochaine fois, ils y réfléchiront à deux fois avant de faire une fouille générale.
Lyon, les anti-mariages pour tous repartent au combat. Donc un an après s'être opposé au mariage, ils se mobilisent contre la procréation médicalement assistée. Donc la Manif pour tous organise ce jeudi une grande conférence à Lyon 6e à 20h à l'espace Tête d'Or, qui est bien sûr gratuite et ouverte à tous, avec Henri Guénaud en guest star. Et sur l'affiche, c'est marqué Guénaud, son engagement et son témoignage personnel. C'est beau, quoi.
Peut-être que son fils est PD.
Du coup, petit rappel sur Guénaud, c'est l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy.
C'est un peu une star de... On en a beaucoup parlé ici, parce que c'est vachement une star de Laurent Delabouze, qui intervient régulièrement sur... Et c'est un peu c'est un peu sa muse, on dirait.
Ouais, et c'est l'auteur du discours de Dakar, l'ancien conseiller spécial de l'Élysée, et donc il interviendra sur l'importance sociétale de l'institution familiale. Donc un meeting qui vise à préparer la riposte au projet de la loi de Dominique Bertinotti sur la famille prévue en 2014. Alors même que je pense son projet n'est même pas rédigé, puisqu'elle a juste promis qu'il serait peut-être fait en 2014, ils sont au taquet. Bon, ce qu'il faut dire quand même sur la manif pour tous, c'est qu'ils sont en perte de vitesse, que du coup, eux, ils sont reliés notamment par le biais du printemps français, par les veilleurs. Ils sont moins nombreux, ils sont radicalisés, ils tentent de réactiver une mobilisation en récupérant le mouvement social par des revendications floues et opportunistes. Et notamment, c'est pas que l'occasion de parler de PMA, c'est aussi, ils parlent des réformes des rythmes scolaires, fiscalité, réduction du congé parental. En gros, c'est leur occasion de faire des meetings contre la politique de gauche du gouvernement. Du moins, je sais pas si on peut dire de gauche, mais.
C'est les partis droits qui se retrouvent en partie une petite assise populaire.
Et du coup, à Lyon, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, à Montpellier, donc leur tournée est générale, je pense qu'ils vont le faire dans pas mal de villes, il y a un appel à contre-rassemblement dimanche 14 qui va s'organiser suite à la venue du coup de la même manif pour tous, le même jour, à la même heure.
À Lyon, redis-nous la date.
À Lyon, c'est demain, c'est jeudi. À 14h, Lyon 6e, à l'espace Tête d'Or.
Alors, des hackers chinois ont envoyé des mails infectés d'un virus aux diplomates pendant le G20 de Paris. Alors, ça remonte à il y a longtemps, c'était en 2011, mais c'est seulement maintenant que l'info sort. Et en gros, quel subterfuge ils ont trouvé pour appâter les diplomates. Et bon, le mec, il promettait comme ça si on cliquait sur le lien qui était dans le mail, qu'on allait avoir des photos de Carla Bruni nue. Du coup, pour rappel, en 2011, c'était la première dame de France.
Ils sont tous fait avoir.
Du coup, en tout cas, dans ceux où on sait qu'ils se sont fait avoir, on ne sait pas s'il y en a d'autres ou pas, mais il y a des officiels tchèques, hongrois, bulgares, portugais et lettons qui se sont fait piéger. Et bon, il y en a sûrement d'autres, n'est pas sûr. Mais en tout cas, a priori, le but des hackers chinois, c'était d'obtenir des informations confidentielles sur les Américains. Bon, ça, c'est un analyste qui dit ça, on ne sait pas pourquoi précisément les Américains. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de truc, ça tu passes à, je pense, t'as accès à pas mal d'infos.
Mais en même temps, sans vouloir être méprisant pour aucun pays, mais c'est vrai que des informations ultra secrètes sur la Lettonie, je comprends que les hackers chinois en aient moins quelque chose à faire.
Tu veux dire que ça se monnaie un peu moins cher que si tu chopes des infos confidentielles sur les États-Unis? C'est possible. On ne sait pas ce qu'ils ont pu choper, ben ça c'est logique. Mais par contre, on sait qu'ils ont eu accès au réseau du G20 et qu'ils ont eu accès aux documents privés des ordinateurs qui étaient présents sur ce réseau. Du coup, ce qui veut dire que c'est pas eux, leur but, c'était pas forcément que un ambassadeur américain clique sur le lien. Du moment qu'il y avait une personne qui le faisait, ça leur ouvrait accès au réseau. Qui ont appris, ils ont pu gentiment se balader dedans et puis regarder ce qui s'y passait.
Chut, écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. J'dégueule les lois mises en place. J'dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, eh ben, ça va être un faux que ça sache pas très rigolo pour sa majorité. Là, on va aller à Tanger, ça s'est passé le 4 décembre, et la police marocaine a assassiné un migrant au cours d'une rafle dans le quartier de Boukalef, où de, c'est un quartier où de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne vivent. La police, en gros, elle était venue avec des cars dans le but d'arrêter des migrants et de les expulser. Les flics se sont entrés dans l'appartement de Cédric. C'est la personne qui est morte et il a priori tenté de résister à son arrestation. Puis des témoins sur place l'ont vu tomber du quatrième étage sans qu'on sache trop exactement ce qui s'était passé. À ce moment-là, les flics présents sont carapatés sans appeler les secours ou rien du tout. Et ce sont des passants qui ont ramassé le corps. Les migrants présents sur place expliquent que ce qui s'est passé ce jour-là arrive tout le temps. Qu'il n'y a pas forcément de mort, mais que la police fait régulièrement des descentes dans ce quartier pour foutre la pression aux migrants. Du coup, les migrants, ils en avaient ras-le-bol et cette fois-ci, ils ont décidé de protester. 700 personnes se sont rassemblées et ont marché dans la ville en portant le corps, en criant police assassin et police raciste. Les flics et les militaires, en voulant s'interposer, se sont pris des coups, des pierres et des bouteilles. C'est bien fait pour leur gueule.
Bien fait.
On va écouter un petit son d'une minute, où en gros, c'est plutôt des bruits de cette manif. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on n'a pas souvent des bruits de ce qui se passe et des manifs de Tanger. Du coup, on va écouter ça. Alors, là, on va à Bruges, en Belgique. Le 3 décembre, un retenu a été retrouvé mort au centre de rétention de Bruges. On ne connaît pas encore les circonstances de sa mort. Ça nous étonnerait qu'on les sache réellement un jour. Pour protester contre les conditions d'enfermement, 40 retenus ont entamé une grève de la faim au centre de rétention de Bruges. Et 20 autres retenus ont également entamé une grève de la faim au centre de rétention de Votem. C'est également en Belgique. Ils se sont mis en grève de la faim en solidarité avec les retenus de Bruges et avec la lutte des sans-papiers afghans.
Il faut que ça se sache.
À Barcelone, cette fois-ci, ça s'est également passé le 3 décembre au matin. Un retenu du centre de rétention de Zona Franca à Barcelone a été retrouvé mort dans sa cellule d'isolement. Lui, on sait un peu plus ce qui s'est passé. C'est Ali qui était arrivé dans ce centre 12 jours auparavant. Il a été directement placé à l'isolement. La veille, d'après d'autres retenus, il avait été tabassé par les matons et étranglé avec ses lacets de chaussures. Il a ensuite passé la nuit à crier depuis sa cellule sans que personne ne vienne le voir. Depuis, 30 retenus se sont mis en grève de la faim pour dénoncer les conditions de la mort d'Alik et leurs conditions de rétention. Voilà.
Il faut que ça se sache.
Calais. Je vais parler de Calais où il y a le déplacement demain, ce jeudi 12 décembre, de Manuel Valls. Et donc, à partir de ce fait-là, j'en profite pour faire un petit rappel historique des déplacements de nos ministres de l'Intérieur à Calais, parce que c'est devenu récurrent. Donc, depuis plus de 10 ans, Calais est une étape obligée des ministères de l'Intérieur et de l'Immigration dans le cadre d'une tournée médiatique où ils parlent forcément de migration et de frontières. Tandis que pour parler de dealers, on va plutôt parler de Marseille, ou voilà, en fonction des villes, il y a un peu sa thématique. Et bien, Calais, c'est toujours la migration. Et la localité choisie se trouve folklorisée ce jour-là, et le ministre se met en scène dans son rôle de défenseur des Français contre ceux qui les menacent. Donc là, à Calais, demain, ça sera contre les méchants migrants. Donc avec Sarkozy, qui avait été tout nouvellement nommé ministre de l'Intérieur, ça avait été la fermeture du centre de Sangatte, et ça c'était en 2002. Donc les exilés avaient officiellement disparu du Calaisis. La répression policière et le délit de solidarité avaient été utilisés pour tenter en vain de donner à la réalité une image plus conforme à la propagande ministérielle. Et début 2003 a été signé le traité franco-britannique du Touquet. Ensuite, la mise en scène d'Éric Besson a occupé pratiquement toute l'année 2009. En avril, pour donner plus d'écho à sa venue, une rafle avait eu lieu la veille à la jungle des Afghans. Des arrestations et le placement en garde à vue de 150 personnes avaient été présentées comme une, ça avait été utilisé dans les médias ce terme, répétition de l'évacuation annoncée du campement. Donc le 22 septembre avait eu lieu la fermeture de la jungle de Calais, c'est-à-dire l'arrestation brutale de 250 habitants restants du bidonville au petit matin. Du coup, la dispersion aux quatre coins de la France et la destruction du campement en présence du ministre guidant les journalistes. Elle avait été suivie pendant 3 semaines par la destruction de pratiquement tous les squats et campements du Calaisis et de plusieurs autres dans la région. En juin et juillet 2009, les gouvernements français et britanniques ont signé un arrangement portant sur le contrôle à la frontière, comportant un important volet financier sur la répartition des coûts des nouveaux équipements et infrastructures à réaliser, ainsi qu'un volet répressif engageant surtout la partie française. Et depuis septembre, il y a eu quand même l'évacuation de plusieurs squats à Calais, et Manuel Valls semble adopter un style différent pour se mettre en scène, puisque sa venue a été annoncée depuis plusieurs fois il a dit « ah, je vais y aller », sans cesse différé pendant plusieurs mois, confirmé 2 jours avant. Donc là, ça a été su qu'aujourd'hui, du moins que hier, pardon. En tout cas, pas assez de temps pour organiser une protestation qui pourrait mettre à mal son image de popularité. Et entre-temps, comme il y a eu pas mal d'expulsions dans l'automne, il y a notamment un campement à 2 pas du port qui est en ce moment à Calais, et un autre à 500 mètres de l'hôtel de ville. Donc les migrants sont présents dans Calais, ils sont visibles, et ça, peut-être, ça dérange un peu notre cher ministre Valls. Et pour finir sur une petite touche que je trouve rigolote, donc ce qu'on peut voir, c'est que les mises en scène de chacun de nos chers ministres de l'Intérieur changent, mais les politiques ne changent pas. Et une petite brève du désordre que j'ai trouvé à Troyes la semaine dernière, un tag a été fait sur le mur du siège du Parti Socialiste, et je cite « Valls, Franco est fier de toi ».
Il faut que ça se sache.
Alors, on va terminer ce « Faut que ça sache » sur une note un peu plus joyeuse que comme on l'avait commencé. Il s'agit des Centres de Rétention Évasion Awards 2012.
Ouais.
Alors, attention, le lauréat, c'est Méline Lamelot, dit La Passoire, qui remporte le prix avec 10 évasions durant l'année 2012.
Bravo.
Le deuxième centre de rétention, c'est Rouen-Oissel avec 9 évasions, Metz arrive 3e avec 8 évasions, Vincennes arrive 4e avec 7 évasions, ensuite Palaiseau et Marseille arrivent ex aequo à la 5e place avec 4 évasions. Le centre de rétention, ça j'ai pas capté, mais centre de rétention Plaisir et Nîmes, ils arrivent ex aequo avec 3 évasions. Strasbourg
ça commence à être petit là.
Ouais, là on a... Strasbourg et Coquel ex aequo avec deux évasions. Et pour finir, Lille, le centre de rétention de Guyane, Toulouse, Nice, Perpignan et Rennes arrivent derniers avec chacun une évasion.
Et bon, que dalle à Saint-Exupéry.
Ouais, qu'est-ce que j'allais dire, que dalle à Saint-Ex.
Et moi, j'aimerais bien avoir les awards de l'Italie.
Ah ouais,
pour rigoler un peu, 50 000.
Ouais, c'est ça, l'Italie, c'est même les centres de rétention qui ferment et tout. Mais du coup, au total, ça fait ça quand même 58 évasions pour l'année 2012. On espère juste que l'année 2013, encore plus de retenues réussiront à se faire la belle.
Sachez que ce journal...
Oups, ça l'a... Oui, bon, allez. Hein. Ah, bah maintenant, rubrique littéraire. Rubrique littéraire.
Merci pour ce petit jingle. Donc, je voulais parler de ce livre parce qu'il y a beaucoup de débats organisés par des masculinistes et de plus en plus régulièrement. Le printemps français l'année dernière a bien encouragé tout ça. Et donc, je voulais parler d'un livre qui est paru en début décembre 2013, le deuxième ouvrage des éditions Bamboule, et ça s'appelle « Contre le masculinisme ». Et en gros, c'est un guide d'autodéfense intellectuelle, donc c'est, en gros, c'est un peu pompeux ce terme, mais je crois que ça explique plutôt c'est quoi le masculinisme. Donc, ça a été fait par le collectif Stop Masculinisme, donc c'est... Qu'est-ce que c'est ? Je redis brièvement, c'est quoi les masculinistes ? C'est des hommes divorcés, perchés en haut d'une grue, qui se disent lésés par une justice qui leur confisquerait leurs enfants. Des associations défendant les hommes battus et criant à la manipulation des chiffres sur les violences conjugales. Des groupes de parole destinés à des hommes en perte de repères et en quête d'une nouvelle identité masculine. Droits des pères, violence et discrimination à l'encontre des hommes, crise de la masculinité, ça c'est les thèmes qui sont chers aux masculinistes.
Dans leurs thèmes chers, oui, c'est ça, il y a aussi le fait que les femmes nous voleraient un peu notre pouvoir.
Et ça convient dans un pays qui est maintenant gouverné par les femmes, que les femmes sont partout, que les femmes sont comme les Illuminati.
C'est ça, et en gros, un de leurs termes fétiches, c'est par exemple pour appeler pour nommer les féministes, ils les appellent les féminazis.
Et ils disent que nous vivons dans une société matriarcale. Donc, bien sûr, ils sont adeptes de la victimisation et de l'inversion des rôles. Ils militent pour la défense de l'ordre patriarcal et des privilèges masculins, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Leur idéologie s'inscrit dans un contexte politique réactionnaire où l'on voit se renouveler des formes de la domination masculine. Donc, en gros, ce petit livre « Contre le masculinisme » explique les rouages du masculinisme. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce livre ? Il est à 8 euros en librairie. Je crois que si vous demandez directement aux éditions Bamboule, B-A-M-B-U-L-E, il y a moyen de négocier les prix si vous en prenez un petit nombre pour des trucs militants. Voilà.
Voilà, et bien figurez-vous que malgré l'heure peu tardive, nous touchons à la fin de ce Canu Info.
Et on finit par un agenda un peu complet. Alors d'abord, je vais parler d'un rendez-vous demain. C'est un rassemblement devant le Grand Lyon à 14h30. Donc le Grand Lyon, c'est 20 rue du Lac. Pour demander des logements décents pour tous. Donc je rappelle des faits, c'est que le 2 décembre 2013, à 6h, 73 personnes, donc 44 enfants, avaient été expulsés d'un squat qui est PRH. Lors de cette opération, les services de police avaient été vraiment violents et ces familles étaient venues s'installer suite à leur expulsion rue du Repos le 19 septembre. Et donc, dans les deux cas, les immeubles étaient la propriété du Grand Lyon, qui a une fois de plus nié la loi imposant le relogement obligatoire. Et donc, ces familles sont une nouvelle fois à la rue. Heureusement qu'il y a une solidarité qui se fait tant bien que mal depuis le 2 décembre. Et cet événement n'est bien sûr pas un cas isolé. Et les situations des personnes sans abri est chaque année de plus en plus préoccupante. Et donc, ce rassemblement pour demander des réquisitions des logements vides, l'arrêt des procédures d'expulsion, le respect de la trêve hivernale et la baisse des loyers. Donc je rappelle, c'est demain à 14h30 au 20 rue du Lac.
Et alors les mêmes personnes qui étaient à ce rassemblement peuvent, si elles veulent, continuer leur après-midi un peu plus tard à 18h devant l'école Gilbert Dru, où deux familles sont actuellement hébergées, faute d'arriver à être hébergées ailleurs. C'est en partie des familles qui sont fait aussi expulser plusieurs fois au cours des derniers mois. Donc deux familles avec des gamins qui sont en classe dans cette école-là. Voilà, cette information vient de faire l'objet d'un reportage dans l'émission précédente, sera très vraisemblablement réévoquée dans l'émission suivante, mais enfin, ça ne fait pas de mal d'en parler plusieurs fois. Éventuellement, si vous voulez aller les voir, rendez-vous tous les jours devant l'école Gilbert Dru, qui est rue Saint-Michel, dans le 7e.
T'es sûr que c'est 18h ? Moi, j'aurais dit 18h30.
Moi, je trouve que c'est 18h.
Allez-y, à 18h15.
Et alors, le 13, 14 et 15 décembre, qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne ? Eh ben, c'est Quartier Libre.
Ouais.
Alors, Quartier Libre, c'est quoi ? C'est un week-end qui est plutôt en soutien au collectif de sans-papiers. Allez, on va vous donner un peu le programme vite fait, là, tout de suite. Vendredi 13, qu'est-ce qui se passe ? La France programmation de 5 films pour mémoire. À partir de 18h30. Samedi 14, à la Bourse du Travail, projection et débat, expo et discussion. À 11h30, il y a vernissage de l'exposition de MC Corda. C'est le titre de l'expo, c'est Les années de plomb. 14h, discussion sur le thème de la transmission de la mémoire comme combat et les luttes actuelles. Joli titre. Samedi 14, à Ursa Minor, concert à 20h. Avec Annie Cassie, c'est du rap guinéen. Mukraker, Industrial Archpunk. J'ai des trucs, j'ai mal relu juste.
Ouais, laisse tomber les concerts.
Ouais, c'est ça, il y a un concert avec plein de trucs qui ont l'air cool. Et dimanche 15 à la Gueule Noire, il y a repas et projection. C'est la bouffe, elle commence à 13h. Alors c'est bouffe internationaliste plus intervention et poésie. Et à 17h, il y a projection d'un film, c'est When the War Ends. Et voilà. Et pour plus d'infos, je pense vous tapez Quartier Libre Saint-Étienne et vous allez sur numero0.net et vous avez le programme complet.
Numéro 0, oui. Ça va être le 17. Le 17, c'est samedi ? Non.
Non,
pas du tout.
Non, c'est mardi.
Mardi prochain. Il y a une rencontre qui s'appelle Genre et Éducation à l'ESPE de Lyon. Donc c'est le GEM, Genre, Égalité, Mixité, qui organise une soirée de conférences-rencontres sur le sujet du genre en éducation. Donc Claire Pontet et Cécile Autogali pour la revue Contre-Pied, qui a consacré son dernier numéro au thème de l'égalité en EPS et dans le sport scolaire. Et Charlotte Artois pour la revue Une autre école, dont le dernier numéro s'intitule La pédagogie contre le sexisme. Et donc voilà, ça sera le 17 de 18h à 20h à l'amphithéâtre Louise Michel à l'ESPE de l'Académie de Lyon, site Croix-Rousse. Donc c'était pour montrer que oui, il y a des masculinistes, mais il y a aussi de l'autre côté des féministes qui organisent des événements pour faire bouger aussi des réflexions autour du sexisme, etc.
Et alors, on en est là, ok. Ensuite, il y a une soirée film-débat co-organisée par l'UJFP. L'UJFP, c'est l'Union Juive Française pour la Paix et l'Observatoire des Armements avec le collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Ça se passe le vendredi 13, du coup ce vendredi à 20h, le samedi 14 à 14h, et au Cinéma Opéra, 6 rue Joseph Serlin, dans le premier. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et il y aura la projection du film The Lab, le laboratoire, pour la petite traduction, qui revient sur les territoires occupés en Cisjordanie, suivi d'un débat avec le réalisateur israélien Yotam Feldam et Patrice Bouveret de l'Observatoire des Armements.
Et pour finir cet agenda, il va y avoir aussi, il y a beaucoup de concurrence ce vendredi soir. C'est à Grenoble, donc pour les Lyonnais qui ont envie de bouger à Grenoble. Il y a une soirée en soutien à un projet LGBT en Égypte. Maintenant, on dit LGBTQIF. C'est beau. Vous voulez tous les sigles ?
Queer, ouais.
L comme lesbienne, G comme gay, B comme bi, T comme trans, Q comme queer, I comme intersexe et F comme féministe. Ouais. Et du coup, ça sera à partir de 18h, donc c'est à la BAF, c'est deux chemins des Alpins. Et donc, il y a à 18h30 une écoute collective d'une émission de On n'est pas des cadeaux, une émission lyonnaise sur Radio Canu, Transpédagogie et Féministe. Et il y aura un concert avec que des groupes de Transpédagogie, donc du reggae, Grâce et Volupté Van Van et Viscéralement Déviant. Et voilà, et la petite précision que je voulais faire sur le film là, The Lab au cinéma opéra, c'est le laboratoire, en fait, c'est utilisé pour montrer à quel point les Israéliens testent des nouvelles armes et des technologies de pointe appliquées aux guerres urbaines, et ils les testent directement en Palestine, et que les Israéliens, c'est les plus forts en termes de nouvelles technologies. Parce que en gros, ils ont la Palestine comme champ d'essai.
Et ça veut dire qu'après que le gouvernement israélien et l'armée israélienne entraînent les forces spéciales françaises et du monde entier pour combattre dans des situations de guerre urbaine.
Ils sont gros exportateurs d'armes partout dans le monde.
On a fini ou quoi ?
On a fini.
Ouais. Ah ouais. Alors, il est 19h48 à l'horloge de Radio Canu et on a déjà fini, donc on va vous laisser avec un petit peu de musique automatique en attendant l'émission Idées Noires qui prendra l'antenne à 20h.
Bonne soirée.
Ciao.
Avec le fameux Keep the Faith, gardez la foi sur Radio Canu 102.2.